Voici ce que nous lisons dans le livre du prophète Michée. Tout à fait à la fin de ce livre, au chapitre 7, les 18 des versets 18 à 20, ce sont les derniers versets complètement de ce livre. À quel Dieu te comparer, toi qui ôtes le péché, toi qui passes sur les révoltes, pour l'amour du reste, son patrimoine, loin de s'obstiner dans sa colère, lui, il se plaît à faire grâce. De nouveau, il nous manifestera sa miséricorde, il piétinera nos péchés, tu jetteras toutes leurs fautes au fond de la mer, tu accorderas à Jacob ta fidélité et ton amitié à Abraham, c'est ce que tu as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Voilà le prophète Michée qui écrit vraisemblablement avant l'exil à Babylone, peut-être au 8e, 7e siècle à peu près, et quelqu'un qui est marqué par l'amour de Dieu. Et cette finale a quelque chose d'évangélique, si, tout à fait, avec cet amour de Dieu qui ôte le péché, qui fait disparaître tout ce qui est de l'ordre de la faute et qui se plaît à faire grâce, qui se plaît au pardon. On aurait pu entendre ça dans la bouche de Jésus-Christ lui-même, finalement. Alors, je voulais vous accueillir avec ces mots qui sont positifs, hein, évidemment, qui sont pleins de promesses. Et plein de vie. Donc, soyez les bienvenus, sachant que la grâce nous est offerte, évidemment, de tout temps, et que Michée, longtemps avant Jésus-Christ lui-même, en a parlé dans ses prophéties. Je veux dire, soyez les bienvenus pour vivre ce temps de culte qui est mis à part dans nos vies et qui est un peu particulier, puisque c'est un culte conférence, comme nous le faisons en début d'année, selon une tradition bien établie au foyer d'âme. Alors, vous êtes très divers les uns les autres. Hein, il y a évidemment les habitués qui connaissent bien la maison, mais il y en a qui sont de passage. Certains sont protestants, d'autres catholiques, agnostiques, avec des convictions philosophiques, etc. Et donc, hein, une grande variété, et j'espère que cette variété est là comme un signe de fraternité, finalement. Et donc, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans ce temple pour ce culte. Et je souhaite la bienvenue, évidemment, à Edgar Morin. Je ne sais pas si on vous dit philosophe, sociologue ou les deux à la fois. Mais dans tous les cas, je vous souhaite la bienvenue. Vous prendrez la parole tout à l'heure et on vous écoutera certainement avec beaucoup d'attention et de plaisir. Donc, vous avez votre place dans cette maison, comme tout à chacun, bien évidemment. Hein, et donc, profitez de cet instant et faites-en profiter aussi toutes celles et tous ceux qui sont venus pour vous écouter et vous entendre. Pour vivre ce moment de culte, ce moment de grâce, ce moment... Alors, celui-là fonctionne. Parce que j'aime assez, mais c'est presque théologique ce que je vais vous dire. Hein, qu'il y ait de l'imprévu comme ça, qu'il y ait de la vie, eh bien, je trouve que c'est très bien au cours d'un culte. Vous voyez, l'imprévu fait partie, l'imprévu et un peu d'humour, tout ça fait partie de la vie. De toute façon, je pense que Dieu a beaucoup d'humour, parce que pour nous aimer, il faut beaucoup d'humour, je crois, et beaucoup d'amour aussi, les deux. Voilà. Bon, ceci étant dit, on va retourner un petit peu notre terrain et être un peu plus sérieux. J'espère que vous avez les uns et les autres les deux cantiques. Il n'y avait pas assez de bleu, certains ne l'ont pas. Alors, pour les chants spontanés, vous pouvez aller à la page 21 pour y être déjà, mais on va commencer par le chant commandé qui est le psaume 118, les strophes 1, 5 et 6. Donc, le 118, le psaume 118, 1, 5, 6. C'est un grand psaume de la réforme. Nous restons dans la ligne du prophète Michée, avec ces deux grandes paroles qui portent en elles l'enseignement de la Bible, de l'Écriture. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est là le premier commandement. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre parole qui soit plus grande que ces deux-là. Amen. Père, en ce dimanche matin, tu nous as réunis ici dans ce temple pour vivre un temps à part, pour écarter les secondes et les heures afin qu'une éternité vienne y prendre place. Donne-nous la force de réaliser que cette éternité est bien là au cœur de nos vies et que ta présence s'y affirme comme une parole d'amour, comme un geste d'accueil, comme un sourire, comme un signe peut-être ténu, imperceptible, mais qui fait vivre. Oui, Père, merci de nous avoir réunis en venant d'horizons différents les uns les autres. Et nous sommes là autour de toi, riches de notre diversité, de nos questions, de nos doutes, de nos remises en cause, de nos vies qui sont là avec des moments de soleil, des moments d'éternité, mais aussi des moments ternes, difficiles, des souffrances inexprimées que seul toi peux prendre en compte. Merci Père de nous accueillir tels que nous sommes, avec nos qualités et nos défauts, avec nos fidélités et nos trahisons. Merci de nous prendre tels que nous sommes et de nous séparer de ce qui nous encombre, de ce qui, au regard des uns et des autres, peut être vu comme une faute culpabilisante, mais que toi tu effaces, que tu répares. Merci Père de nous prendre et de nous relever pour être tout le temps avec toi dans un face-à-face lumineux qui nous mette en route, toujours sur des chemins nouveaux, vers des découvertes nouvelles, des rencontres, des moments de vie que nous te remettrons au fur et à mesure que nous avancerons dans ta lumière et avec ta parole. Merci Père de ta présence et de ton accueil. Amen. Lorsqu'on amène à Jésus la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère et qui, en conséquence, va être lapidée, eh bien, Jésus renvoie les accusateurs à leur propre vie, évidemment, comme vous le savez, hein, celui qui n'a jamais péché, etc. Et puis, quand il se trouve face à face avec la fille en question, il lui dit « Je ne te condamne pas, je ne te juge pas, va et ne pêche plus. » L'Évangile, la grâce, c'est de savoir que nous sommes toujours pardonnés par Dieu. Ça ne veut pas dire que le pardon soit sans responsabilité, évidemment. Et dans ce passage de l'Évangile de Jean, Jésus dit à la fille, « Ne pêche plus. » Il la renvoie à sa responsabilité et à sa dignité d'être humain en accord avec la loi. C'est ça la grâce, c'est d'arriver, comme je disais dans la prière, à séparer la faute de la personne, pour pardonner à la personne et prendre en charge la faute. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons finalement les dimanches ou dans des groupes de réflexion ici ou là pour entendre ça précisément, qui que nous soyons, quoi que nous fassions véritablement. Eh bien, il y a un amour qui dépasse tout, qui abolit toute limite et qui efface tout ce qu'il y a de négatif et de pesant dans nos vies pour que nous puissions vivre véritablement dans la liberté. Voyez, c'est ça l'Évangile. Dieu nous pardonne en Christ. En Jésus-Christ, Dieu n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde vive, précisément. C'est ça qu'on vient entendre véritablement dimanche après dimanche. Il y a un amour ineffable qui nous dépasse infiniment, qu'on appelle la grâce, qu'on appelle le pardon, que Dieu nous pardonne les uns et les autres. Amen. C'est dans la reconnaissance et dans la joie que je vous invite à partager notre confession de foi. Je crois en Dieu, notre Père. Il est amour. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il a souffert, il est mort, il nous pardonne. Il est la vie et la lumière du monde, et son règne dépassera le temps. Malgré notre faiblesse, je crois qu'en Jésus-Christ, Dieu est l'espérance des hommes, et l'homme est l'espérance de Dieu. Je crois en l'Esprit, présent au monde et au cœur des hommes. L'Esprit donne la paix aux hommes de bonne volonté. L'Esprit de Dieu crée et recrée le monde, le dynamise et le conduit vers le royaume. Je crois à la communion de tous dans la foi, l'espérance et l'amour. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à entendre un des passages que nous invitons à partager aujourd'hui dans l'Évangile de Marc, au chapitre 1, les versets 40 à 45. Un lépreux vint à Jésus et, se jetant à ses genoux, lui adressa cette prière : « Si tu le veux, tu peux me guérir. » Il en eut compassion, il étendit la main et le toucha en disant : « Je le veux, sois guéri. » La lèpre disparut à l'instant et cet homme fut guéri. Jésus le congédia immédiatement en lui donnant cet avertissement sévère : « Garde-toi de parler de ceci à personne, mais va te montrer au prêtre et offre pour ta guérison ce que Moïse a prescrit, que ce leur soit un témoignage. » Mais à peine sorti, le lépreux se mit à répandre la nouvelle et à la proclamer, de sorte que Jésus ne pouvait plus même paraître publiquement dans une ville, mais il se tenait dehors, dans des endroits déserts, et on venait à lui de toutes parts. » Voilà, cette guérison d'un homme impur, le lépreux, et c'est très signifiante en ce sens que Jésus va le toucher, ne craint pas l'impureté, et signifie par là qu'il n'y a aucun être impur au regard de Dieu, fût-ce un lépreux. Je vous invite à prendre le cantique 251 en entier.
Merci. Chers frères et sœurs en humanité, je suis particulièrement touché par les dernières paroles, par les paroles de M. le pasteur sur le pardon, car je dois dire que ce qui m'a marqué dans mon adolescence profondément et pour toute la vie, c'est dans la lecture de Dostoïevski d'apprendre, de comprendre que le pardon était une vertu fondamentale et la difficulté du pardon le rendrait encore plus nécessaire. Mais je ne veux pas poursuivre dans ce domaine. Je voudrais, je pense, commencer par une réflexion sur le mot « croire », car paradoxalement, le mot « croire » a deux sens. Un premier sens est un sens dubitatif. Je crois qu'il va pleuvoir. On ne sait pas. Il est marqué par l'incertitude. Et le deuxième, quand on dit « je crois en Dieu » ou « je crois en l'amour », »,« je crois à la patrie », est marqué, lui, par la certitude. Et alors, vous me direz, ces deux sens sont absolument incompatibles. Logiquement, ils sont incompatibles, mais en fait, on les retrouve souvent liés. Regardez Pascal. Pascal, il sait que par la raison, on ne peut pas prouver la vérité de sa croyance en Dieu. Alors, il dit, faisons le pari. Le pari apporte l'incertitude. Et je pense aussi à cette parole du grand poète espagnol Unamuno qui disait « Ô foi, sans doute, il n'y a pas de foi ». Et vous savez, tant de croyants qui reconnaissent qu'ils ont des moments de doute. Donc on peut très bien avoir un jeu permanent en soi entre la foi, certitude, et l'incertitude. Cela étant dit, je pense, et donc si vous voulez, il y a force et faiblesse dans le mot « croire ». Cela dit, je pense que nous sommes tous des croyants, pas seulement ceux qui croient en Dieu, mais tous les autres, et je dirais y compris celui qui ne croit en rien, puisqu'il croit qu'il y a un rien qui mérite d'être cru. Donc, si vous voulez, on ne peut pas extirper l'idée de croyance de l'esprit humain, et tout ceci est quelque chose qui nous fraternise. Alors, nous croyons, comme je le dis, nous pouvons croire à la famille, nous pouvons croire à la nation, nous pouvons croire à l'amour, nous pouvons croire à la fraternité, nous pouvons croire à l'humanité, nous pouvons croire... mais donc, si vous voulez, il y a cette communauté, il n'y a pas le fossé absolu entre ceux qui croient religieusement en Dieu et ceux qui croient d'autre chose, puisque le mot « croyance » comporte cette communauté. Et je dois dire aussi que j'ai eu une révélation au Machu Picchu. Vous savez que le Machu Picchu est cette montagne sacrée au Pérou, qu'on a découvert du reste qu'au début du XXe siècle, et qui était une sorte de temple, de monastère, où les prêtres, les moines incas, vivaient dans l'adoration du soleil. Leur vie était uniquement contemplative et adoratrice. Et cette révélation que j'ai eue, je me dis, mais leur vie est aussi justifiée que celle d'un technicien de notre société, que celle d'un businessman, que celle d'un parlementaire, etc. J'ai pensé que, dans le fond, toute vie qui était portée par une ferveur était avec quelque chose qui lui donnait un sens. Et donc, si vous voulez, je pense que là aussi, il n'y a pas ce fossé entre celui qui vit uniquement dans la contemplation et dans la ferveur de sa foi, et au contraire, que même celui-ci est peut-être, ça a plus de sens que celui qui se voue à des tâches immédiates ou à des tâches uniquement vouées à son profit personnel. Et je veux ajouter à ceci une conviction que je dirais anthropologique, c'est-à-dire sur l'être humain, l'individu humain, qu'on définit un peu à tort comme, uniquement comme homo sapiens et homo faber. Homo faber, sapiens, il est doué de la raison, et seulement on oublie que la raison est un pôle de l'esprit humain, l'autre pôle c'est la démence, c'est le délire. Et le délire, ce n'est pas seulement le propre des fous qu'on met dans les asiles, c'est nous dans la colère, c'est nous dans l'ambition, c'est nous dans la mégalomanie, c'est nous. Mais ce qui est très important, c'est de montrer que finalement, d'ailleurs c'est grâce aux travaux de Damasio, spécialiste du cerveau, il a montré que quand un centre rationnel est excité, comme il y a aussitôt un centre émotionnel. Autrement dit, la raison pure n'existe pas. Ou si elle a la raison pure du calcul, elle est froide, elle est inhumaine. La raison a toujours besoin de la passion, a toujours besoin de l'amour. Et c'est aussi à ce moment-là que nous comprenons que nous avons besoin de la raison, de la critique rationnelle, du doute rationnel. Mais nous devons savoir quelles sont les limites de cette rationalité et que la rationalité seule nous rend aussi aveugles que la passion seule. Et c'est ici que se retrouve ce qu'il y a de commun entre le croyant de la religion et le non-croyant religieux que je suis. Mais il faut ajouter, homo faber, on a défini l'humain, par sa capacité technique, par sa capacité à faire des outils. Et évidemment, elle est fabuleuse, nous le voyons aujourd'hui, avec la multiplication des conquêtes techniques, des machines, des robots, des missiles, de l'intelligence artificielle, etc. Encore que ces conquêtes risquent de nous asservir plus que de nous libérer, mais c'est une autre affaire. Mais on oublie qu'à côté de l'homo faber, il y a l'homo religiosus, l'homme qui croit en quelque chose de surnaturel, et que cette croyance, que cet aspect de l'homme, il se retrouve dans toutes les civilisations. Il se retrouve dès Néandertal, dès la préhistoire, où les morts sont enterrés avec leurs armes, avec de la nourriture, ou bien dans une position de fœtus pour renaître, et dans même la civilisation les plus matérialistes, comme les États-Unis, constituent une civilisation extrêmement religieuse, puisque sur le dollar qui est roi, mais il y a le roi des rois, in God we trust, nous croyons Dieu. Donc, et vous savez très bien que l'Union soviétique a voulu pendant 70 ans éradiquer toute religion, la foi orthodoxe, elle n'a fait que la fortifier. Donc cet aspect de... Alors, la religion, le mythe, les mythes, vous savez, ce ne sont pas des superstitions. Les mythes, c'est une façon d'exprimer des vérités obscures, profondes, que notre langage n'arrive pas, que notre langage dénotatif ou rationnel n'arrive pas à exprimer. Et nous avons besoin, moi-même si je dis je crois en la fraternité, bien sûr, c'est une réalité, mais en même temps, c'est un mythe. Je pense que, puisque dans le fond, nous savons très bien que dans l'humanité, il n'y a pas que la fraternité, il y a aussi des forces contraires, mais je sais aussi que donc, dans ce mythe, il y a une profondeur, il y a une vérité, c'est ma vérité. Donc là aussi, si nous savons ceci, il n'y a pas d'un côté l'homme technico-rationnel et de l'autre côté l'homme passionnel et l'homme religieux ou théologique, c'est le même, ce sont des aspects de la nature humaine. Alors évidemment, le rationaliste croit en la raison, mais il ne sait pas, lui, que la raison, qui est nécessaire, je le répète, a elle-même ses propres limites. Donc, le fossé n'est pas dans la croyance, je crois, entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas. Je pense qu'il y a un fossé en Dieu lui-même. Voilà. Pourquoi il y a ce fossé? C'est parce que quand nous considérons le Dieu des religions monothéistes, c'est-à-dire effectivement le judaïsme, le christianisme, l'islam, nous voyons un Dieu à deux visages. Nous avons le visage de la clémence dans la prière islamique, qui invoque le clément et le miséricordieux. Vous avez le Dieu du pardon qui est incarné par Jésus-Christ sur la croix, disant même, parlant de son bourreau qui est en train de lui faire mal, de le faire souffrir, « Pardonnez-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc, vous avez ces vertus de magnanimité, vous avez même dans la Bible qui est refermée sur l'idée du peuple élu, il y a quand même cette idée qui apparaît en disant « aime pas seulement le prochain, aime le lointain ». Bon. Donc si vous voulez, il y a des éléments effectivement d'ouverture, et je dirais même que christianisme et islam sont des religions universalistes qui s'adressent à tous les êtres humains, quelle que soit leur origine, leur sexe, leur âge, etc. Et par là même, elles ont un sens humaniste et humanitaire très profond. Ceci est vrai. Mais il est non moins vrai qu'à partir de cette foi, qu'à partir de cette croyance, nous avons vu des fanatismes, des persécutions. Historiquement, c'est ça, c'est l'histoire du catholicisme jusqu'à une époque très récente. Mais n'oublions pas les croisades, n'oublions pas l'Inquisition, n'oublions pas la persécution des protestants eux-mêmes, n'oublions pas le supplice de Chevalier de la Barre, n'oublions pas l'encyclique le Quantum Cura et le Syllabus, n'oublions pas. Et quant à l'islam, qui effectivement s'est montré tolérant à l'égard des religions dites du livre, c'est-à-dire chrétiens et juifs pendant des siècles, aussi bien dans le monde des civilisations andalouses que dans l'Empire ottoman, il a des germes de fanatisme terribles qui se manifestent aujourd'hui chez une minorité délirante. Et puis il a eu, c'est une religion qui s'est propagée aussi dans la conquête, pas seulement dans la propagation de la foi, mais dans la domination sur l'Asie, sur l'Afrique, et sur une partie de l'Europe. Donc, si vous voulez, il y a et même le Dieu de la Bible, il a un côté jaloux et un côté Dieu de colère. Et si vous voulez, l'aspect négatif dans ces religions, c'est le mépris, la haine de celui qu'on appelle l'apostat, celui qui ne croit pas, c'est l'impie et tout ceci. Donc, je dirais que le fossé, il est à l'intérieur de ces religions. Ou bien, il y a une façon ouverte, une façon compréhensive, une façon humaniste de concevoir la religion et d'être fidèle à un de ces messages originels, fondamentaux, qui est clémence, pardon, ouverture, pitié, compassion, et ou bien l'autre message qui est haine, mépris, destruction, fanatisme, comme nous avions vu ces quelques fanatiques qui détruisent les monuments les plus anciens du bouddhisme ou au contraire des civilisations antiques. Donc voilà, c'est ainsi que dans le fond le grand problème, c'est à travers les germes fondamentaux humanitaires et humanistes de religion, accéder à la compréhension d'autrui, c'est-à-dire comprendre cette chose capitale que l'autre, qui n'est pas comme vous, qui ne pense pas comme vous, qui n'agit pas comme vous, que l'autre, il est à la fois semblable et différent de vous. Il est semblable parce qu'il a les mêmes sentiments, il est capable des mêmes joies, des mêmes douleurs, des mêmes peines que vous. Mais en même temps, il est différent par son caractère, par ses croyances, par ses idées, par sa culture. Et la compréhension d'autrui, c'est comprendre à la fois que l'autre, il est comme vous et différent de vous. Comprendre ces deux choses à la fois qui semblent illogiques et qui sont profondément logiques. Pourquoi ? Parce que le propre de l'humanité, c'est l'unité dans la diversité et la diversité dans l'unité. C'est de penser que l'espèce humaine est une, on a tous le même cerveau, les mêmes sensibilités, les mêmes organes, on est tous identiques. Et en même temps, on est tous différents, pas seulement par le caractère. Les cultures sont différentes, les croyances sont différentes, les musiques sont différentes, les langages sont différents, les usages sont différents. Comprendre que le trésor de l'humanité, de l'unité humaine, c'est la diversité humaine, et que le trésor de la diversité humaine, c'est l'idée humaine, c'est ça qui nous rend compréhensifs à l'égard d'autrui. Alors, maintenant, j'en viens à la question de la spiritualité, parce que souvent, on croit que spiritualité, c'est un mot synonyme de religiosité, que seuls sont spirituels ceux qui font des prières, ceux qui vont dans les églises, dans les temples, dans les mosquées, etc. Ce qui est vrai, mais au contraire, la spiritualité, c'est quoi ? La spiritualité, c'est le plein emploi, c'est l'ouverture des forces de l'esprit. Des forces de l'esprit, c'est-à-dire que c'est qu'il rende capable de réflexion, de vie intérieure, de pensée, de compréhension. Et je pense que c'est une chose qui est devenue capitale dans notre civilisation. Pourquoi ? Parce que notre civilisation occidentale a privilégié, à partir de son développement technique, économique et social, elle a privilégié, disons, les choses matérielles, les aspects matériels. Elle est arrivée à un moment donné à confondre le bien-être matériel, le confort, le frigidaire, les voitures, les télévisions, le smartphone, à confondre le bien-être matériel avec le bien-vivre, le bien-être intérieur. Or, un message capital que moi j'ai reçu quand j'ai été en Californie, qui avait ce qu'on appelait cette contre-culture, cette jeunesse révoltée, c'était que cette jeunesse des gens les plus riches du monde, de ces familles qui avaient 3 télévisions ou 4 voitures, ils voulaient fuir cette richesse, ils voulaient vivre en communauté, ils voulaient vivre en fraternité, ils voulaient vivre en autonomie. Et ça, c'est un besoin spirituel fondamental que l'on trouve, que la jeunesse a réveillé à partir de cette époque, y compris mai 68, et que c'est un besoin que l'on ressent de plus en plus les adultes. Moi, je connais combien de gens qui ont sont des positions dominantes dans le business ou dans les cadres, qui à un moment donné n'en peuvent plus, vont à la campagne et prennent une ferme écologique et mènent un autre type de vie. Tous ces jeunes qui sont partis élever des chèvres au Larzac, mais aussi tous ceux qui cherchent un réconfort de l'âme, qui sentent une solitude, qui le cherchent à tâtons dans le yogisme, dans le bouddhisme zen, chez les psychiatres, etc. Il y a un mal-être spirituel, et je pense que la spiritualité est une chose qui est absolument vitale, c'est-à-dire de comprendre que, et aussi bien, il faut le dire, que dans les grandes œuvres esthétiques, dans Shakespeare, dans Dostoïevski, dans Tolstoï, dans tous les grands écrivains, dans la grande musique, nous trouvons quelque chose qui parle à notre âme et à notre esprit et dont nous avons besoin. C'est ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, justement, parce que sous le poids d'une civilisation qui privilégie le calcul, la technique, le quantitatif, les besoins contraires existent, se manifestent de plus en plus, et c'est dans ce sens-là que je crois que aussi bien le croyant dans les religions et ceux qui croient en la fraternité et en l'humanité doivent et peuvent vivre ensemble. Et j'ajouterais en disant que ce que j'appelle la pensée complexe, et c'est une forme de spiritualité. Pourquoi ? C'est parce qu'elle nous oblige à ne pas voir les choses de façon unilatérale et compartimentée, à ne pas réduire quelqu'un qui a commis un crime à ce seul crime et de voir le reste de sa personnalité, de ne pas voir simplement les carences ou les défauts des autres, mais voir aussi leurs qualités. La pensée complexe, c'est ce qui nous relie pas seulement les connaissances, mais qui nous relie les uns les autres. Et dans le mot « relier », il y a presque quelque chose qui fait penser au mot « religion ». Moi, j'ai la religion de la reliance. C'est une chose qui me semble absolument fondamentale. Alors, je conclue sur deux mots. Sur deux mots à partir du mot « protestant ». Là aussi, de même que le mot « croyant », a deux sens qui sont tout à fait différents. Le mot protestant a deux sens différents. Premièrement, il a un sens affirmatif. On proteste de sa bonne foi, on proteste de sa foi. Bah, c'est un sens d'affirmation de foi. Et en même temps, il a un sens critique, et il a eu ce sens critique historiquement à l'égard de l'Église catholique. Protester, ça veut dire objecter, opposer, résister. C'est aussi un mot de résistance à ce qui semble injuste. Et je dirais, pour conclure, que quand on est protestant, c'est qu'on sait qu'on a des ascendants qui ont été persécutés, et que si on sait que nos ascendants ont été persécutés, alors on devient sensible aux persécutions actuelles que subissent tant d'êtres humains, tant de peuples, pour leur existence, pour leurs croyances, qui souffrent actuellement, qui fuient dans les bateaux, qui sont des réfugiés. Ça doit nous rendre conscience pleinement de notre humanité. Merci à vous.
Les applaudissements qui ont eu lieu sont très rares pendant les cultes. En disent long sur les remerciements qu'on vous adresse pour cette conférence que vous nous avez offerte. Merci mille fois pour toutes ces idées que vous avez abordées, pour l'accent mis sur la valeur de l'humain, finalement, si je comprends bien, dans la diversité et dans le respect de l'autre. Je crois que c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur dans cette paroisse dont le slogan c'était « Ici, on enseigne l'humanité », précisément. Vous avez été tout à fait dans le sens de l'état d'esprit et dans la spiritualité de ce lieu. Merci mille fois dans tous les cas, et j'espère que tout un chacun ici n'a pas arrêté d'être venu et saura peut-être vous embêter un petit peu à la fin de ce culte. Je ne sais pas si vous voulez rentrer chez vous tout de suite ou pas, mais je suis sûr que beaucoup voudront vous rencontrer et vous poser des tas de questions et vous remercier aussi. Je voudrais vous donner quelques annonces. Nous avons, alors, à l'issue de ce culte, il y a un buffet qui vous est offert. Dans les paroisses, on mange pas mal en général, pas mal dans les deux sens, beaucoup et bien. Et donc n'hésitez pas à prendre du temps. Le fait de se rencontrer, je crois que c'est quelque chose qui fait partie de l'humain, etc. Je vais rester sur la nourriture parce que vendredi prochain, le groupe Psychanalyse et Foi, qui se réunit donc vendredi prochain à 19h30, va se pencher sur la question « Je mange, donc je suis ». Ben, ça tombe bien. Alors c'est à partir du dernier livre de Marie Balmary. Voilà. Alors d'ici là, il y a un groupe œcuménique mardi 13 à 19h rue Titon. Il y a le conseil presbytéral mercredi 14, c'est à 20h, hein, et on se réunit un peu avant pour là aussi manger. Voilà, il y a le culte à la muette, à la fondation de la muette, hein, pour les personnes âgées qui sont à la fondation. Et pour ceux et celles qui voudraient venir, évidemment, il n'y a vraiment aucun problème. Ce sont des cultes qui sont ouverts à tout le monde. Et les personnes âgées sont toujours extrêmement contentes de rencontrer des gens de l'extérieur. Voilà, dimanche prochain, c'est... le pasteur Cousinier qui viendra présider le culte. Donc on le fera à deux aussi, parce qu'il y aura aussi des baptêmes. Alors, il y a d'autres annonces. On m'a parlé d'évangile et liberté. Donc, vas-y.
Et donc, pour ceux qui n'auraient pas l'occasion de repasser parmi nous et qui souhaiteraient avoir un exemplaire écrit des textes des conférences, il y a un cahier à l'arrière du temple, sur lequel vous pouvez vous inscrire en indiquant votre adresse et éventuellement votre adresse courriel si vous voulez. Le prix des conférences, c'est 10 euros et on prend 3 euros de frais de port. Pour ceux qui viennent de temps en temps ou régulièrement ici, pas de problème, 10 euros, et ce n'est pas nécessaire de vous inscrire. S'il n'y en a pas assez, j'en retirerai.
Merci bien. La dernière annonce, c'est l'offrande. Oui.
On peut déjà annoncer l'Assemblée générale de la paroisse
le 18 mars. Le 18 mars, Assemblée générale de la paroisse. Voilà. Si vous êtes inscrit d'avant le 31 décembre 2016, vous pourrez venir à l'Assemblée générale et voter. Sinon, vous pouvez venir à l'Assemblée générale et participer au débat, sans voter. Il y a aussi l'entraide, je ne sais plus la date. Le 11 mars. Voilà, même discours pour l'entraide, évidemment, puisque ce sont des associations qui ont à peu près des textes très, 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 très voisins. Voilà, l'offrande, elle est là, elle permet effectivement de partager ce message que nous avons entendu aujourd'hui et aussi d'aider ceux qui en ont besoin. Donc, pendant ce moment d'offrande, je vous invite à prendre le cantique 264 en entier. Il est bien difficile... de penser à l'ensemble de l'humanité dans sa richesse et sa variété, mais nous pouvons la remettre au Père. Mais nous avons aussi des situations précises en mémoire, des souffrances, peut-être, des interrogations, mais aussi des moments de joie à remettre au Père, ainsi que des noms, des visages de personnes qui sont proches de nous et auxquelles nous tenons. Il y a tant et tant de choses à dire dans nos prières. Notre Père, toi qui es au cœur de nos vies, ton nom est magnifique. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que le pain soit en partage sur toutes les tables du monde et que ta parole nourrisse chaque être humain. Donne-nous la force de pardonner comme tu nous pardonnes, toi qui ne nous laisses jamais seuls face aux tentations et aux forces du mal. À toi, notre Père, le règne de l'amour, la force de l'esprit, la lumière de ta parole, au siècle des siècles. Amen. Vous allez repartir après ce moment de culte et de partage, de repartir dans la ville, de repartir dans la vie, à la rencontre des hommes qui, comme on l'a vu au cours de ces conférences, sont variés, parfois divisés, parfois unis. Mais vous allez aller à la rencontre du monde, à la rencontre des hommes. Allez-y avec vos convictions, avec vos idées, avec vos forces et vos faiblesses, et allez apporter à celles et ceux qui ont besoin d'une parole, une parole de vie, et recevez aussi de leur part leur richesse et leur parole de vie, parce que c'est ainsi qu'on fait l'humanité, véritablement, dans la rencontre des autres, dans l'écoute et dans le partage. Allez donc dans ce monde qui vous attend et dont nous avons besoin. Que le Seigneur vous bénisse toutes et tous. Allez en paix, maintenant et à jamais. Amen.